Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Samedi 2 octobre, je vous espère en pleine forme. Ça y est, hein. Voilà, on a ressorti les pulls, les blousons, de la pluie au nord, encore beau au sud. Demain, il va pleuvoir. Valérie Darmon nous rejoint dans un instant avec plaisir. On est ensemble jusqu'à 7h. À 7h, matinale commune avec CNews. Vous retrouverez Isabelle Moreau. On parlera pouvoir d'achat et hausse des prix de l'énergie. Après le journal de 7h, est-ce qu'il y a risque de colère sociale? C'est toute la question du moment. Et puis à 7h30, Isabelle sera en duplex avec le maire de Breuil-sur-Roya, week-end de commémoration, un an après le passage de la tempête Alex. Soyez les bienvenus sur Europe 1. On vous accompagne, on vous informe avec beaucoup de plaisir. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et voici toute l'actu que l'on va développer dans cette première édition. Un week-end d'émotion, de commémoration dans l'arrière-pays niçois. C'était donc il y a pile un an, je vous le disais, la tempête Alex ravageait les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. Retour sur place et journée fil rouge sur Europe 1. 35 ans d'enquête et la fin d'un des plus vieux cold case français. François Vérov, dit le grêlé, a été retrouvé mort dans le Gard. Stupéfaction d'un de ses anciens collègues de travail. Et puis, les fois au vin, c'est bientôt la fin. Qu'est-ce qui s'est bien vendu? Quelles sont les tendances? On vous dit tout dans un instant. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure. 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet Plus de Longchamp. Puis l'interview de Philippe Legrand. Une date, une histoire avec la fille de Bernard Tapie, la chanteuse Sophie Tapie. 6h23, on va partir bien sûr en balade avec Vanessa Aza et Marion Sauveur. Escapade dans le Tarn. Et puis on va déguster de la vanille à La Réunion. La tendance météo. Bonjour chère Vanille d'Armand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Je vais très bien malgré la pluie qui touche tout de même toute la moitié nord et surtout le nord-ouest, hein, vous en parliez tout à l'heure, le soleil qui persiste au sud. Ça va être très très venteux tout ce week-end aussi quasi partout et les températures sont très contrastées entre 18 à Évreux et 28 à Mont-de-Marsan.
Et météo complète bien sûr à la fin de ce journal.
Europe 1.
On sera tous week-end dans nos rendez-vous info dans l'arrière-pays niçois. C'est un week-end de commémoration, de deuil, de souvenirs. C'était il y a pile un an, le passage de la tempête Alex. 13 communes ont été touchées, 18 victimes, dont 10 seulement ont été retrouvées. Immense catastrophe, on s'en souvient. La facture dépasse le milliard d'euros. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, ce qu'on appelle le fonds Barnier, qui permet d'indemniser les particuliers et de détruire les biens devenus dangereux, se fait attendre. Ce sont plus de 400 maisons qui sont concernées. Mais beaucoup de sinistrés ne veulent pas en entendre parler. Reportage dans la vallée du Kéros à Saorge, Frédéric Michel.
Là, c'était mon pré. Et bien maintenant, il n'y a plus rien. C'est un trou.
Jacqueline Schmitt n'oubliera jamais cette nuit qui a bouleversé sa vie.
Si vous saviez la peur que j'avais, j'étais seule. J'entendais ce bruit. Mais c'était infernal, le bruit. Une horreur. En plus, j'avais pas de lumière, pas d'eau.
À 73 ans, cette retraitée a longtemps vécu isolée. La route menant à son petit coin de paradis, en haut de la vallée du Kéros, a été entièrement détruite. Pour accéder à sa maison, il faut sur de nombreux kilomètres rouler au pas sur les cailloux.
Maintenant, il faut se battre avec les assurances, puis ça bouge pas. La maison, tout est en péril là, hein. Mais j'ai dit que je reste chez moi. Je vous dis, on a travaillé une vie pour avoir la propriété qu'on a et vous partez comme ça, vous laissez tout. Non, je pars pas.
Pas question de vendre à l'amiable sa maison à l'État. Jacqueline préfère partager financièrement les travaux d'enrochement estimés à 100 000 euros, mais pour le préfet de la reconstruction, Xavier Pelletier, le risque est trop grand.
C'est compliqué, il faut se mettre à la place des sinistrés, mais à un moment donné, il ne faut pas avoir la main qui tremble parce que ce sont des vies qui sont en jeu. On sait qu'on aura à nouveau des intempéries extrêmement dévastatrices. En plus, la zone méditerranéenne est particulièrement exposée au niveau mondial.
Mais Jacqueline prévient, il faudra l'enchaîner pour la faire partir.
Frédéric Michel, correspondant européen sur place, nous ne vous lâcherons pas et je viendrai avant la fin de l'année, déclaration d'Emmanuel Macron ce matin dans les colonnes de Nice ce matin. Et puis je recevrai dans trois quarts d'heure maintenant le maire de Saint-Martin-Vésubie, l'une des communes les plus touchées il y a un an. La politique avec ce sondage choc, sondage Ipsos pour le Parisien aujourd'hui en France. Éric Zemmour à 15% dans ce dernier sondage. Il devance pour la première fois Xavier Bertrand à 14% et talonne Marine Le Pen qui est à 16%. C'est dans ce contexte que s'ouvre l'Université d'été de la République en marche à Avignon. Une vingtaine de ministres sont attendus sur place. Le parti présidentiel va réfléchir à l'élection d'avril prochain. Jacques Seret, il s'agit surtout pour En Marche de se structurer.
Oui, il y a des signes qui ne trompent pas, que ce soit sur les affiches, sur les tracts ou dans le programme de ce campus. Il n'est fait mention nulle part de la République en marche. Je vous le confirme, ce n'est pas un oubli, c'est bien volontaire. Seuls figurent les deux mots de majorité présidentielle. Et c'est même tout l'objet finalement de ce rendez-vous dans le Vaucluse. La République en marche se cherche, réfléchit à son avenir et surtout à son organisation à 6 mois de la présidentielle. Au centre des discussions, la création d'une maison commune pour rassembler au sein d'une même entité l'ensemble des partis et mouvements qui soutiennent Emmanuel Macron. Le chef de l'État a donné son approbation, il a confié les clés du chantier au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, mercredi lors d'un dîner à l'Élysée. Hasard du calendrier ou pas, dans une semaine, c'est un autre parti qui devrait être lancé, celui d'Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, qui s'il soutient la potentielle candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle, entretient le flou quant à son implication dans cette maison commune. D'ailleurs, le maire du Havre ne sera pas présent ce week-end à Avignon. Une absence qui d'ores et déjà fait planer une ombre menaçante au-dessus de ce campus.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À retenir en bref, le bouclier tarifaire annoncé par le gouvernement pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie suscite interrogations et critiques. Un tour de passe-passe qu'on remboursera à partir d'avril pour Force ouvrière. La CGT elle propose la baisse de la TVA car l'énergie est un produit de première nécessité. Environ 200 militaires seront déployés à partir de lundi au Royaume-Uni pour assurer la livraison de carburant dans les stations-service, des stations affectées par des pénuries en raison du manque de chauffeurs routiers. C'est l'une des plus vieilles affaires non élucidées en France. 35 ans d'enquête. L'homme retrouvé mort dans le Gard, eh bien François Vérov, surnommé le Grêlé, le gendarme puis policier, était recherché pour 4 meurtres et 6 viols. Réaction d'un de ses anciens collègues de travail, Denis Jacob, aujourd'hui secrétaire national du syndicat Alternative Police.
François était quelqu'un de très discret sur sa vie privée, ça c'est sûr, mais à titre professionnel, c'était quelqu'un de gentil, disponible, serviable, qui avait un tempérament bien tranché, qui arrivait par moments à s'énerver très facilement, mais qui n'avait jamais été agressif, violent. Il a traversé une épreuve difficile où il était en souffrance psychologique, il a été en dépression sous traitement médicamenteux. De là à faire le lien avec cette affaire aujourd'hui, effectivement, ça m'interpelle. Très honnêtement, on m'aurait mis ces portraits robots à l'époque sur mon bureau. Je n'aurais jamais fait le moindre rapprochement. Tout d'abord parce qu'il n'était pas grêlé, il n'avait pas d'acné, il n'avait pas de cicatrices. Enfin, moi, je me souviens pas. Le port de la barbe était interdit dans la police nationale. D'avoir vu des signes distinctifs sur son visage qui auraient permis de l'identifier.
Denis Jacob interrogé par Caroline Baudry. C'est samedi, c'est jour de course. Peut-être que vous allez profiter de la foire au vin. Ça se termine bientôt chez Nicolas, chez Auchan, au Carrefour Market. C'est l'heure du bilan. Quelles sont les tendances 2021? Réponse Carole Ferry.
Le Bordeaux reste le vin préféré des Français, mais continue toutefois à perdre régulièrement des parts de marché, au profit notamment des vins de Loire et Centre et du Beaujolais. L'autre grande tendance, c'est la hausse des ventes de vins bio. Une demande des consommateurs en constante évolution ces dernières années. Selon Marc Coste, c'est lui qui sélectionne les boissons mises en rayon dans les Franprix.
Effectivement, moi, en étant sur un marché hyper urbain, on a une forte appétence sur le bio. Aujourd'hui, sur les foires, on est passé de 30% l'année dernière à 35% de l'assortiment sur le bio. Et on va essayer de développer au maximum l'assortiment 2022 sur cette tendance-là de marché qui généralise un petit peu, en fait.
Chez les cavistes, l'offre en plein essor, c'est celle des vins bio encore plus spécifiques, comme le vin biodynamique qui fait pousser le raisin selon le calendrier lunaire, ou la méthode naturelle qui ne fait entrer aucun produit durant la vinification, pas ou très peu de sulfite par exemple, des productions dont la quantité ne peut toutefois pas répondre aux besoins de la grande distribution.
Bien sûr, à consommer avec modération. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Le foot, Lens a battu Reims hier soir en match avancé de la 9e journée de Ligue 1. Les 100 et or comptent 18 points et consolident ainsi leur 2e place au classement derrière le PSG. Écoutez le bonheur de Franck Hez, l'entraîneur de Lens.
On va dire on est un quart là. C'est de belles stats et je mets souvent beaucoup de retenue, vous le savez très bien, mais je le goûte aussi. Hein. D'autant plus que je vais pouvoir goûter pendant 15 jours. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais il faut le goûter. Il faut apprécier ces moments-là. Et puis deuxième pendant cette trêve, parce que ça on le restera. C'est plutôt sympa. Deuxième avec 2 points de moyenne, c'est quand même bien. Très bien.
Franck Hez au micro Europe 1 de Sébastien Boé. À 17h, Montpellier reçoit Strasbourg et ce soir, Nice accueille Brest. Un coup de chapeau à présent. Une tempête, un retournement, des creux de 4 à 5 mètres, une mer déchaînée, des moyens de communication coupés pendant plusieurs semaines. Voilà ce qu'a, entre autres, vécu Guirec Soudès lors de sa traversée de l'Atlantique à la rame sur une embarcation de 8 mètres de long. Il est parti de la côte est des États-Unis le 15 juin dernier. Le Breton de 29 ans est arrivé hier à Brest. Un exploit majuscule salué par des centaines de spectateurs massés le long des pontons. Point final d'une aventure de 107 jours. On l'écoute.
107 jours, c'est long. Hein. J'ai déjà commencé par deux semaines de courant contraire où je devais enchaîner parfois des journées de 20h, 18h de rame par jour. J'étais vraiment épuisé. Et trois jours après, c'est le moment où le bateau s'est retourné. Et ce qui a été aussi très compliqué, c'est que fin août, début septembre, j'étais à 380 000 de Ouessant. Et là, je me suis retrouvé avec des vents contraires. Et j'ai mis 24 jours à revenir sur mon point GPS. 24 jours, j'ai tourné en rond sur plus de 1000 km comme ça. Je savais pas quand ça allait finir. Et là, c'est dur. Là. Et heureusement que j'ai vécu des moments genre uniques aussi. J'ai fait des rencontres d'orques. J'ai eu des baleines qui suivaient mon bateau. J'ai eu des tortues dans tous les sens. J'ai vu des bandes, centaines de dauphins. Ça, c'était vraiment très fort. C'était vraiment important pour moi d'arriver en Bretagne et j'ai eu un accueil, mais digne de la Bretagne, quoi.
Voilà, Guirec Soudé avec Charles Guyard. On termine avec de la musique ? Écoutez. Vous avez bien sûr reconnu Mylène Farmer. Nevermore, nouvelle tournée prévue en 2023. La prévente se termine demain soir déjà. 200 000 billets prévendus en 8 heures, c'est colossal. Et la billetterie ouvrira lundi. Il nous reste à voir la météo. Valérie Darmon, voilà, c'est un temps d'automne.
Exactement, on est loin des Seychelles. Hein.
Oui.
On a déjà 5 départements en orange, pluie, inondation, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Donc la Bretagne et le Cotentin qui sont déjà sous la pluie, ces pluies qui vont se généraliser et s'intensifier sous un vent de sud qui ne va pas cesser de se renforcer. Cet après-midi, ces pépins obligatoires de la Bretagne et des Hauts-de-France à la région parisienne, au Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes et jusqu'à ce soir. Le vent qui souffle en rafale dans les terres jusqu'à 80 km/h, voire 90, et jusqu'à 100-120 sur le littoral.
Ailleurs, ça donne quoi, Valérie ?
Alors, le temps qui reste sec sur l'est et le sud, une bonne partie de la journée, le ciel qui s'ennuage de l'Aquitaine au Massif central jusqu'en Alsace, l'Occitanie, PACA, Rhône-Alpes qui profite d'un ciel lumineux, mais le vent qui se renforce au fil des heures, là aussi, jusque dans l'après-midi, il va souffler jusqu'à 70 km/h. Dès le début de la soirée sur les Pyrénées, il dépasse 120 km/h, tandis que de l'Occitanie au Massif central et sur la vallée du Rhône, ainsi que le Val-de-Saône, il atteindra 90 km/h. Sur le Languedoc, le ciel va commencer à se couvrir ce soir. La pluie commencera à tomber sur les Cévennes en début de nuit prochaine, ce qui va nous annoncer un nouvel épisode Cévenol pour demain. C'est un week-end bien pourri qui nous attend, avec des valeurs ce matin très contrastées, comme cet après-midi, entre 8 à Aurillac et 19 à Nice.
Merci tout de même pour votre voix ensoleillée. Valérie, à tout à l'heure. À suivre sur Europe 1, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet Plus de Longchamp, et puis Philippe Legrand qui reçoit la chanteuse Sophie Tapie, la fille bien sûr de Bernard Tapie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral. Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Bientôt 6h15, c'est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est un mini quintet plus qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec seulement 13 partants, mais à défaut de la quantité, nous aurons la qualité puisqu'il réunira les meilleurs stayeurs européens sur la distance marathon de 4000 mètres, avec un solide favori, le numéro 7, Stradivarius, triple lauréat de la Gold Cup, l'épreuve reine à Ascot en Angleterre, et seul cet après-midi, un terrain trop lourd pourrait l'empêcher de s'imposer et de s'adjuger les quelques 171 420 euros offerts au vainqueur. L'opposition sera constituée par Scazzino, le numéro 6, très confirmé sur cet hippodrome de Longchamp et qui a vraiment franchi un palier depuis qu'il a été judicieusement rallongé par son entraîneur Cédric Rossi, avec Trueshan, le numéro 9, qui nous arrive d'Angleterre dans un état de forme optimal, ayant été préparé de longue date pour cet objectif. Enfin, méfiez-vous des numéros 12, Princesse Zoé, lauréate de cette même épreuve l'an dernier, un Straterm qui, à l'inverse de certains concurrents, serait avantagé en cas de terrain lourd, et 10 Call the Win à l'arrivée de cette course lors des trois dernières éditions. Les numéros 13 Bubble Smart et 2 Emperor of the Sun compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 6, 9, 12, As, 10, 13 et 2.
C'est noté, merci Thierry Léger.
L'entretien de Philippe Legrand avec Croisie Europe, des bateaux à taille humaine au plus proche des beautés du monde.
Et tous les samedis matins, un invité des archives, on regarde dans le rétro une date, une histoire. Ce matin, la chanteuse Sophie Tapie. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1986 sur le Paris-Dakar. Bonjour Sophie Tapie.
Bonjour Philippe.
Chanteuse, comédienne, votre voix s'est fait remarquer autant sur scène au théâtre, sur grand écran, au cinéma, que devant des millions de téléspectateurs qui ont découvert votre répertoire de musique country. Aujourd'hui, vous chantez sur des airs plus pop, un autre genre qui témoigne de la diversité de vos refrains, une autre façon aussi de saluer votre année de naissance, 1988, que vous avez choisi comme titre de votre nouvel album. Sophie Tapie, lorsque vous avez décidé d'aller jusqu'au bout d'un défi, comme Bernard Tapie, votre père, vous y allez, rien ne vous arrête ou presque, c'est le langage de la passion qui vous anime. Ce matin, vous avez souhaité revenir sur cette date, le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine disparaît dans un accident du rallye Paris-Dakar. Quelque temps avant, Daniel Balavoine était sur Europe 1.
C'est vrai que c'est un truc assez fascinant, mais ça n'a rien à voir avec un fantasme. C'est une envie de faire du sport, de faire une course, de savoir ce que c'est, l'amour des bagnoles, et puis la curiosité, l'envie de découvrir autre chose, l'envie de se mettre en difficulté aussi, c'est vrai, pas de se faire souffrir, mais simplement de se mettre en difficulté.
Quelle voix, cette voix, n'est-ce pas, Sophie Tapie?
Ça me fait toujours quelque chose quand je le entends.
Daniel Balavoine, l'artiste, l'homme engagé, le 14 janvier 1986, il disparaît au Mali. Il est dans l'hélicoptère du patron du Dakar qui s'écrase, avec à son bord 5 personnes. Thierry Sabine, le fondateur du rallye, Nathalie Audan, du journal du dimanche, le pilote, le technicien radio et lui. Pourquoi ce choix?
Ce choix parce que j'ai toujours aimé Balavoine, que ce soit d'une part le chanteur et d'autre part l'homme. Voilà. Ce qui était pas forcément mon cas, par exemple, pour un Michel Berger. J'adore l'artiste, mais j'étais pas passionnée de l'être humain comme je peux l'être de Daniel Balavoine. Surtout que Daniel Balavoine ne devait pas prendre cet hélicoptère. C'était un concours de malchance. Il prend la place d'un journaliste à la dernière minute. Il lui pose la question. Il lui dit, est-ce que ça te dérange si je prends ta place parce que je dois rentrer plus tôt? Et il lui sauve la vie. Et le journaliste expliquera quelques temps plus tard que c'est lui qui a refermé la porte et qui s'en évolue beaucoup, beaucoup de temps. Le syndrome du survivant, quoi.
Sophie Tapie, c'est lui qui vous a donné envie, parce que 1988, je le disais en vous présentant, c'est le titre, le chiffre de votre nouvel album, c'est aussi votre année de naissance, donc vous êtes né quelques temps après, vous avez appris par hasard ou presque.
J'ai grandi avec du Balavoine dans les oreilles parce que ma famille écoutait ça, et à l'âge de 6 ou 7 ans, mais assez tard, j'ai demandé à ma maman de m'emmener voir un concert de Daniel Balavoine, et elle m'a dit mais c'est pas possible, il est décédé. Et j'ai pris ça, mais j'étais tellement triste parce que pour moi il était tellement jeune, que je crois que c'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je suis confrontée à ce que c'est que de mourir, en fait. Et ça m'avait traumatisée. Je me rappelle que ça m'avait vraiment traumatisée, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit plus là. On le consommait tellement, en radio, etc. Pour moi, il faisait tellement partie du paysage, c'était inconcevable pour moi qu'il n'existe plus.
Sophie Tapie, c'est lui qui vous a donné envie d'entrer en studio, d'écouter de la musique, de chanter, de placer votre voix sur des airs?
Pas que lui, mais oui, en tout cas, il m'a donné l'envie d'écrire des textes qui veulent dire quelque chose, voilà.
Sophie Tapie, vous parliez de vos textes, et moi de votre voix. Aujourd'hui, les textes pour 1988 ont pour titre Phénix, mais aussi Sans Dessous, Petite Merveille, Rodéo, Le Corbeau, Cheveux Argentés, etc., etc. On se dira au revoir d'ailleurs tout à l'heure avec votre choix qui est dans votre playlist. C'est votre titre, Je perds la tête, mais avant de la perdre, comment vous est venue cette idée de construire un album encore plus pop qu'avant?
Alors, c'est plusieurs choses. La première, c'est que la première fois que j'ai présenté un album en France, c'était un album canadien, québécois. Je n'étais pas signée en France. Et moi, la musique que je consomme chez moi, c'est de la folk et c'est de la country. Après, quand j'ai exporté le disque en France, je me suis fait signer par une maison de disques. Ça a été un parcours du combattant pendant des années. Ça a été un long désert. Et puis finalement, on m'a tendu la main, on m'a fait confiance. Et on s'est tout simplement posé autour d'une table avec mon label en disant, nous, on n'est pas capable de faire ce genre musical ici. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, en fait, ça ne m'a pas dérangé, dans le sens où, vu que je suis auteur et que je suis compositeur, mes textes n'ont pas changé et Mes mélodies n'ont pas changé. On va dire que c'est le stylisme qui a un peu changé. Et j'avais vraiment envie d'insister sur le fait qu'il s'appelle 1988 parce que ça a été l'année d'énormément de titres typiques des années 80. Et on retrouve beaucoup ça dans l'album. C'est un album, je pourrais l'appeler néo-vintage, c'est-à-dire que les textes et on va dire que les rythmiques sont pop et sont actuels. Mais vu qu'on a eu la chance d'enregistrer au studio CBE, qui est l'ancien studio de Dalida, de Claude François, il n'a pas bougé. Le lambris, la moquette, les lampes sont toujours les mêmes. Et on a vraiment
ombres,
pu...
Les ombres, mais vraiment, les fantômes.
Il y a une ambiance là-bas absolument extraordinaire. Puis c'est un peu une caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire on a récupéré des synthés qui n'avaient plus été utilisés depuis je ne sais pas combien de temps. C'était une vraie expérience et j'avais très envie de faire un espèce de clin d'œil aux années 80 parce que je trouve que déjà dans une soirée s'il n'y a pas au moins un moment avec les années 80 c'est pas une soirée qui marche et deuxièmement parce que dans les années 80 ils avaient justement comme Balavoine cette facilité de parler de choses hyper importantes sur des rythmes qui étaient plutôt joyeux. Le Mon fils ma bataille de Daniel Balavoine, c'est une chanson up tempo, c'est une chanson gay, alors que ça a été le drame de sa vie, cette histoire. Mais comme les Marcia Baila, ça parle de cancer, on a tous dansé dessus. Macumba de Madère, ça dénonce les immigrés qui étaient obligés de se prostituer pour pouvoir survivre dans un pays qui n'était pas le leur. Donc voilà, moi, vu que mes textes ne sont pas forcément très joyeux, en règle générale, je me suis dit que ce serait assez intelligent et assez sympa de les arranger de manière à ce que ce soit un peu plus écoutable sans prendre un Lexomil, quoi.
Oui, Sophie Tapie, le rythme est là, hein, le rythme aussi, l'ambiance musicale. Effectivement, on va s'en rendre compte avec Je perds la tête d'ici quelques minutes. Et puis, il y a de l'émotion beaucoup dans chacun de ces titres. Il y en a un magnifique, hein, Phoenix. Ouais. C'est un clin d'œil au combat et au combat de votre père. C'est une manière aussi de lui dire je t'aime.
C'était ma manière de faire le point en fait de voilà, ça c'est ce qu'il est au travers de mes yeux à moi. Je parle à la première personne dans ce texte parce que c'est vraiment lui qui s'exprime, mais c'est la manière dont moi je le perçois et ce que j'ai appris, ce que je retiens de lui. Et puis c'est aussi une manière de parler un peu de cette maladie qui est le cancer, qui isole énormément les gens, parce que le cancer fait peur. Malheureusement, les gens pensent que c'est contagieux.
Mais le mot est fort, hein, Phoenix.
Mais surtout les malades du cancer, parce que quand on a un proche ou qu'on est soi-même atteint de cancer, c'est en permanence, c'est cyclique. C'est-à-dire que il y a des jours où ça va tellement bien, puis des jours où on est au bout. Et puis ça revient, et c'est un peu cyclique, un peu comme un phénix. Donc c'était aussi ma manière à moi de parler de cette maladie avec beaucoup de pudeur et d'essayer d'aider ou d'apaiser la douleur.
De tendre la main en chanson à ceux qui souffrent.
Ouais.
Vos pensées sont là, elles sont aussi dans Je perds la tête, même si on la perd, on la perd pour rêver. Hein. C'est aussi comme ça qu'on peut interpréter ce titre. On va se dire au revoir. Merci d'être venu sur Europe 1 ce
accueilli.
Matin.
Merci,
Sophie Tapie, pour saluer la mémoire de Daniel Balavoine et de nous faire découvrir un peu plus de 1988, votre nouvel album. À bientôt.
Je rêve d'endroits moins ordinaires. On plonge dans le béton et court sur la mer. Je veux planter des pailles dans les cœurs pour les regonfler en cas de douleur. Des flamants bleus sur le bitume, des cailloux qui deviennent fortune. Ça tourne pas rond, je n'y retrouve pas. Je perds la tête, je fais pas exprès.
Je perds la tête, Sophie Tapie.
Et Philippe Legrand qu'on retrouve bien sûr samedi prochain. Allez, on part en balade.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec CroisiEurope. CroisiEurope, des bateaux à taille humaine au plus proche des beautés du monde depuis plus de 45 ans. Plus d'infos sur croisiEurope.com.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du samedi avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien?
Bah oui, très bien, parfaitement, mais on est avec vous.
On part dans le Tarn, Vanessa, précisément à Cordes-sur-Ciel. C'est un des 5 nouveaux plus beaux villages de France.
Et aussi un des fleurons des grands sites d'Occitanie. Mmh. Le National Geographic disait l'année dernière que c'était la plus belle vue du monde pour eux quand on était en France. Ouais. Alors vous allez comprendre pourquoi. Ce village, on le surnomme aussi le château dans le ciel. Mmh. Et Véronique Lanas, qui est guide conférencière, elle est incroyable. Véronique, elle travaille à l'Office du Tourisme. Elle va nous expliquer pourquoi.
Miyazaki avait trouvé une colline autour de Cordes. Il avait eu cette inspiration d'un château dans le ciel, mais essentiellement parce que très tôt le matin, il y a beaucoup de brume dans la vallée, surtout lorsque la nuit a été fraîche et que la journée s'annonce plutôt chaude. Et seule la ville médiévale, la ville fortifiée, se trouve au-dessus d'une mer de nuages. Et cette cité fortifiée, eh bien, c'est l'image d'un château dans le ciel.
Ah,
ben Miyazaki.
Je l'ai bien, Miyazaki. Oui.
Mais oui,
parce qu'il s'en a inspiré justement pour l'affiche du film.
Et ben voilà, exactement.
On comprend tout,
le puzzle est remis en place. Et c'est vrai que Cordes, ça invite à l'imaginaire. C'est un voyage aussi à travers les siècles. Parce que déjà, il faut la gagner, cette cité médiévale. Il faut monter.
Ça se mérite,
monsieur. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est là-haut, on déambule dans toutes ces ruelles. Toutes les ruelles partent de la place centrale et elles s'écoulent comme ça sur les versants. Et de temps en temps, il y a un petit escalier que vous pouvez emprunter. Et là, vous passez d'un étage à un autre, d'un rempart à un autre.
Et dis donc, ça va être chouette de survoler ça en montgolfière, par exemple.
Ça, c'est super. Si vous avez les moyens, faites-le. Vous pouvez le faire avec Atmosphère Montgolfière. Ils sont très pros. Et flotter comme ça au matin au-dessus.
Et qu'est-ce qu'on regarde?
Les vignobles aussi. Les vignobles de Gaillac. Et moi, je vous suggère quelque chose. C'est de le faire en deux chevaux. Il y a des promenades comme ça qui vous permettent aussi d'aller de spot en spot, de domaine en domaine, évidemment.
Rapidement,
dans les domaines.
Vanessa, de bonnes adresses pour nous, si on veut s'y rendre.
À l'intérieur de Gordes, il y a une très belle chambre d'hôte de caractère. C'est un couple incroyable qui la gère. Ça s'appelle D'ici et d'ailleurs. C'est une ancienne maison de garde. Et puis en dehors, pour avoir vu sur Gordes, le Clos Pastel. Alors là, on est un petit peu plus luxe avec piscine et spa. Mais alors là, une fois que vous avez posé les pieds sur les transats, vous n'avez plus envie de repartir.
Dommage. Les bons plans week-end avec Vanessa Zaza. On passe à table avec vous, Marion Seveur, et on prend la direction de l'île de la Réunion.
Oui, pour déguster la vanille de la Réunion.
Ah, bien sûr.
Une vanille grasse, souple, à la jolie gousse brune. Sa récolte est en train en ce moment de se terminer tranquillement.
Oui. D'accord.
Et cette vanille vient de recevoir une indication géographique protégée, l'IGP. Elle garantit donc sa provenance, puisqu'aujourd'hui, on trouvait cette vanille sous le nom de vanille Bourbon, mais qui regroupe toutes les vanilles produites à Madagascar, aux Comores et à la Réunion, avec donc l'indication géographique protégée, vous avez une garantie qu'elle est originaire de l'île de la Réunion, qu'elle est française et qu'il s'agit bien de la variété originelle de la vanille, la Planifolia.
Marion, la vanille initialement ça vient de la Réunion ou pas?
Non, ça vient du Mexique. Elle est arrivée à la Réunion en 1819.
D'accord.
Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait la vanille c'est le fruit d'une orchidée et pour donner ce fruit il faut qu'elle soit fécondée. Au Mexique c'est une abeille qui féconde la fleur naturellement.
Mmh.
Cette abeille n'existe pas sur l'île de la Réunion, et c'est un petit jardinier âgé de 12 ans qui a découvert le procédé, c'était en 1841, et c'est à lui que l'on doit le savoir-faire, donc de la production de la vanille partout dans le monde, ailleurs qu'au Mexique, c'est extraordinaire. Le procédé n'a donc pas changé depuis le 19e siècle, on va polliniser comme ça à la main, ce sont généralement des femmes qui réalisent cette fécondation, et on les appelle les marieuses.
Marion, on apprend des choses avec vous, c'est passionnant. Il y a une particularité pour la vanille de la Réunion?
Elle a une forte teneur en vanilline, c'est cette substance aromatique qu'on retrouve dans les gousses.
Ouais.
C'est dû notamment à la variété de l'orchidée originelle et au terroir, bien sûr. La vanille pousse sur la côte est de l'île de la Réunion où le climat est chaud et très humide. Les gousses restent aussi souples et c'est grâce au processus de préparation de la vanille, puisqu'en fait, elle est cueillie verte, à maturité. On stoppe ensuite sa maturation en la plongeant dans l'eau à 65 degrés, mais vraiment moins de 5 minutes. Et ensuite, elle est enfermée dans des couvertures pour transpirer. Elle va devenir brune, la couleur qu'on connaît. Et ensuite,
d'accord,
on va la laisser affiner au moins 7 mois.
Rapidement, Marion, allez, une petite recette.
Mais oui, alors pour bien sentir le goût de la vanille, une bonne crème à la vanille.
Ah, c'est bon,
vous allez porter à ébullition du lait, de la crème, du sucre avec la gousse de vanille et ses grains bien extraits. À côté, vous mélangez des jaunes d'œufs, de la maïzena et du lait. On mélange le tout hors du feu et vous mettez 2 heures au frais. Vous allez voir,
c'est délicieux. C'est simple.
Merci beaucoup Marion. Bien sûr, on retrouve la recette et les bons plans sur europe1.fr. Mesdames, à demain dimanche.
Et oui, à demain.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Bon réveil à tous, il est 6h30 et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Du rififi à droite, l'investiture LR crée des remous entre les candidats alors qu'un sondage donne les Républicains quatrième derrière Éric Zemmour.
Il y a un an, la tempête Alex ravageait la vallée de la Roya. Témoignage un an après dans ce journal.
Et également à 6h45, puisque votre invité Thierry sera Yvan Mottet, il est maire de Saint-Martin, Vésubie. Et puis comme tous les samedis, la photo de Paris Match juste après ce journal. L'hebdomadaire a retrouvé Juan Carlos à Abu Dhabi, où l'ancien roi d'Espagne est exilé.
Et puis la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Vent tempétueux en Bretagne, mais aussi jusque dans les terres du bassin parisien. Forte pluie aussi en Bretagne et Pays de la Loire, et de la chaleur à l'est et au sud, jusqu'à 28 dans le sud-ouest.
À tout à l'heure Valérie.
Europe 1.
C'est un week-end, nouveau week-end très politique qui s'annonce avec un sondage qui va faire grincer des dents dans plusieurs camps.
Un sondage Ipsos pour Le Parisien qui estime ce matin à 15% les intentions de vote pour Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle. Le voilà désormais troisième homme à un point de Marine Le Pen. Le polémiste devancerait donc le candidat de la droite.
Et des Républicains qui justement ont du mal à se mettre d'accord sur celui ou celle qui les représente.
Oui, Xavier Bertrand souhaite parvenir à un accord avant le 13 octobre. C'est la date limite pour déposer sa candidature, pour que Valérie Pécresse, Michel Barnier ou Éric Ciotti se rangent derrière lui. Sauf que la main tendue est restée sans réponse et que Xavier Bertrand se voit même accusé de ne pas respecter les règles du jeu. Alexandre Chauveau.
Oui, c'est Valérie Pécresse qui a réagi la première lors d'un déplacement à Cherbourg. Pour elle, il n'y a pas de candidat naturel, alors pas question de s'affranchir du vote des adhérents le 4 décembre.
Moi, ma porte est toujours ouverte à tous ceux qui veulent le dialogue. Mais je le dis, à un moment donné, il faut un processus de sélection et il ne faut pas avoir peur de la sélection.
Même son de cloche chez Michel Barnier qui vient de dévoiler une liste de 50 parlementaires qui le soutiennent. L'ancien commissaire européen en appelle sur BFM TV au respect des militants qui ont choisi samedi dernier de désigner eux-mêmes leurs candidats en congrès.
Aujourd'hui, je recommande que tous ceux qui veulent le soutien de cette famille, et nous sommes plusieurs, et c'est une bonne chose que d'avoir un débat, joue cette règle du jeu, la respecte. C'est une question de loyauté, une question de confiance mutuelle.
En voulant éviter la division dans son camp, Xavier Bertrand est en train d'aboutir à l'effet inverse.
Et le président des Hauts-de-France, qui juge qu'il est le seul à pouvoir l'emporter face à Emmanuel Macron, il va prendre la parole à la mi-journée lors d'un déplacement à la manufacture.
Il y a un an, les habitants de la vallée de la Roya, notamment, vivaient un cauchemar avec le passage de la tempête Alex.
On se souvient encore de ces images de pans entiers de maisons, de ponts avalés par la rivière, des villages détruits, isolés pendant des jours, et un bilan humain très lourd, 18 victimes. Jamais une catastrophe n'avait causé autant de dégâts depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est pour cela que des hommages seront rendus tout le week-end.
Oui, un an après les crues, l'heure est au souvenir. Messe, monument mémoriel, inauguration d'une maison du souvenir. Frédéric Michel est retourné dans la vallée de la Roya pour Europe 1. Jean-Pierre Vassallo, le maire de Tende, nous dit que désormais, il veut aller de l'avant.
On commence à aller mieux, mais on est encore dans la plaie ouverte. Hein. Bon, vous savez qu'on était descendu aux enfers, il y a eu des bouffées d'oxygène qui sont importantes. Bon, le premier signe encourageant, c'est l'investissement énorme qui est mis sur la route. Franchement, l'année dernière, à cette époque, on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, on aurait pu en être déjà là avec des travaux sur la route. C'est énorme ce que fait le conseil départemental. On a un bon préfet pour la reconstruction, on fonctionne bien. Donc, il faut en remonter nos besoins. Il y a 520 millions qui sont mis pour la reconstruction, mais il faut aller vite. C'est la course contre la montre. Il faut qu'on ne laisse pas tomber la pression sur notre commune. Il y a à peu près une cinquantaine de familles qui sont parties, mais qui ont envie de revenir. Mais seulement, tant qu'on n'a pas réalisé la protection des berges, ces gens ne sont pas autorisés à rentrer chez eux. Donc il faut que ces travaux de consolidation des berges soient réalisés le plus possible pour que ces gens puissent rentrer dans leur maison. Il faut se projeter vers l'avenir. Il faut qu'on montre que rapidement, on pourra avoir une vie normale. Et on est optimiste.
Jean-Pierre Vassallo, maire de Tende, au micro Europe 1 de Frédéric Michel. Emmanuel Macron le dit dans Nice ce matin, il se rendra dans les vallées touchées par les intempéries avant la fin de l'année. La Guadeloupe, elle, va entamer son déconfinement, la première phase de son déconfinement le 8 octobre. L'île est confinée depuis début août. Le couvre-feu notamment devrait être relevé à 22h contre 20h actuellement.
Lénaïque, on passe à l'actualité culturelle à présent avec cette exposition. Une histoire de la mode, c'est au Palais Galliera.
Oui, si vous voulez savoir comment s'habiller les femmes du XVIIIe siècle, quelle est l'évolution de leur morphologie depuis par exemple qu'elles travaillent, eh bien l'exposition répond à toutes ces questions et c'est Marie Jiquel qui nous fait la visite.
Un défilé de robes de princesse brodées, bouffantes, brillantes, mais ce qui retient l'attention, ce sont les souliers qui accompagnent ces tenues, des escarpins très fins. Marie-Laure Guton, la commissaire de l'exposition.
Il faut bien imaginer que le corps a énormément évolué au cours des 3 derniers siècles, et notamment pour la femme, du fait d'activités physiques beaucoup plus importantes. Donc en fait, on marche moins, on porte pas de choses lourdes, etc. Donc les mains étaient plus fines et les pieds plus fins et plus petits aussi.
Cette collection rappelle aussi que la tenue est politique, comme ses habits portés pendant l'occupation.
L'utilisation du tricolore avait vraiment une dimension donc patriotique. Donc on va le retrouver par exemple sur des espadrilles ou sur un sac, on a les trois couleurs réunies sur le même objet. On a parfois sur des petits boutons. Ça peut être aussi de porter une jupe bleue, un corsage blanc et des chaussures rouges. Et c'était dangereux pour les femmes ou les hommes qui portaient ce genre de choses.
De Louis XV à Jean-Paul Gaultier, ces pièces qui valent parfois des centaines de milliers d'euros retournent tourneront dès le mois de juillet dans un lieu tenu secret pour leur conservation.
Marie Jiquel pour Europe 1. Et à propos, si vous êtes fan de culture et que vous êtes près de Paris, eh bien c'est la Nuit Blanche ce soir, de retour après la pandémie. Plusieurs balades au milieu d'œuvres artistiques vous sont proposées dès 19h.
Allez, on passe au sport à présent. Paris-Roubaix est de retour et pour la première fois, il se court en automne et surtout, il est ouvert aux femmes aujourd'hui.
Oui, elles vont découvrir l'enfer du Nord. Et quand on voit ce qui s'annonce côté météo, eh bien la Reine des Classiques devrait tenir toutes ses promesses. 116 km de parcours, 30 de pavés. Lionel Gougelot a pu rencontrer les coureuses de l'équipe FDJ lors des reconnaissances sur le parcours.
On sait que c'est une course où il peut y avoir plein de rebondissements, plein de choses peuvent se passer. Mais voilà, il y a cette appréhension, mais beaucoup d'excitation et surtout une grande motivation.
Elle a parcouru cette semaine avec son équipe de la Française des Jeux les 17 secteurs pavés du Paris-Roubaix féminin. Et l'enfer du Nord ne lui fait pas peur. Mieux, Maëlle Grosstête se prend à rêver de finir en tête à l'arrivée.
C'est une course que j'ai préparée et l'équipe me fait confiance sur cette épreuve. Donc ça aussi, c'est une motivation en plus. Gagner Paris-Roubaix, pour moi, c'est un rêve complètement et je garde les pieds sur terre. Mais encore une fois, vu qu'il peut tout se passer sur cette course, si on rêve pas, on n'y arrivera pas. Donc faut mieux rêver un petit peu.
Un parcours raccourci, mais les mêmes pavés que les hommes sur les derniers kilomètres. Une course pour l'histoire. Le Vélodrome de Roubaix verra cet après-midi le premier sacre d'une reine sur la des classiques, une vraie conquête pour le vélo féminin selon Stéphane Delcourt, manager de l'équipe.
C'est là où s'écrivent les légendes de notre sport et ce sera la première fois qu'une femme pourra écrire son nom sur le palmarès, ça va faire des vocations. On a vu beaucoup de petites filles sur le bord des pavés depuis le début qu'on est arrivé ici et c'est vraiment ça, la belle histoire, c'est qu'on va enfin pouvoir écrire le nom d'une femme sur Paris-Roubaix.
Avec en plus de la pluie, du vent et de la boue prévue au programme, en fait, tous les ingrédients pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du cyclisme. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Voilà, tout ce qu'on aime, la pluie, les pavés, Paris-Roubaix, les femmes aujourd'hui, les messieurs demain.
Alors du Nord, on passe au Pas-de-Calais pour le foot.
Oui, avec Lens qui a consolidé sa deuxième place de la Ligue 1, victoire des 100 et or, 2-0 hier face à Reims. Lens a 18 points, 6 de moins que Paris, 4 de plus que Marseille qui joueront demain. En attendant, cette 9e journée se poursuit avec deux rencontres, Montpellier-Strasbourg à 17h et Nice-Brest à 21h sur Europe 1, bien
parfait,
sûr.
Parfait, tout est dit, merci. Merci beaucoup à vous, les Naïk Monnier. On passe à la météo. Valérie Darmon, il faut mettre de la laque aujourd'hui hein, parce que les cheveux vont s'envoler.
Ça, c'est sûr. Et nous, avec hein, les Naïk, nous a un petit peu ambiancé là avec le Paris-Roubaix. Eh bien, attention au vent, attention aux fortes pluies. 5 départements sont en orange, pluie inondation. Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. La Bretagne est la première à être bien arrosée ce samedi matin. Les pluies d'abord faibles vont se renforcer au fil des heures, devenir fortes sur le Finistère à la mi-journée. Les vents de sud vont atteindre en fin de matinée 90 km/h sur l'ouest de la Bretagne avec des pointes à 100 sur les côtes du Finistère les plus exposées. Dans l'après-midi, ces vents violents avec des rafales à 110, localement 120 sur les côtes, va donc souffler sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Cotentin. Dans les terres, il soufflera 90. En soirée, il va toucher la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien. Donc vous l'avez compris, de Lille à Brest jusque sur Angoulême, c'est gris et c'est triste toute la journée.
Bon.
Ailleurs, ailleurs.
Ailleurs, il y a un peu de soleil.
Centre-Val de Loire. Comment ?
Il y a un peu de soleil ailleurs.
Et
quand même.
Oui, il y a un peu de soleil, bien sûr, tout de même. C'est un petit peu contrasté encore. En Centre-Val de Loire, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, les grisailles sont présentes ce matin à l'ouest de la Saône. Ils vont laisser place à un ciel lumineux, souvent voilé cet après-midi. Sur le sud de la France, c'est-à-dire en région PACA, Languedoc-Roussillon, le soleil brille pour le moment. Les températures entre 18 à Évreux et 28 à Mont-de-Marsan. Mais je suis preneuse de vous avec la laque, hein, tout de même. Je vous le dis. Pour demain. Ça continue demain.
Ça
le
continue demain.
Temps.
Merci beaucoup, Valérie Darmont. Je vous embrasse. Allez, à suivre la photo de Paris Match. Ils ont retrouvé Juan Carlos, l'ancien, bien sûr, roi d'Espagne. Et puis, l'interview d'actu. Je recevrai le maire de Saint-Martin-Vésubie. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
La photo de Paris Match, comme tous les samedis matins, avec Aurélie Raillard, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire Paris Match. Bonjour.
Bonjour.
Alors, page 64 cette semaine, on va s'arrêter avec une rencontre. Rencontre avec Juan Carlos, ancien roi d'Espagne, bien sûr tombé en disgrâce et retiré loin de son pays.
Et oui, il vit depuis l'été 2020 dans une île dont on ne peut pas dire le nom. Des Émirats Arabes Unis,
ouais.
Et parce qu'il a eu quand même de gros soucis en Espagne. Mmh. Il est soupçonné de corruption et de diverses malversations financières.
Exact.
Donc, il voulait s'exiler au début au Portugal. On a jugé que c'était trop près de l'Espagne, donc ouais. Il a été un peu mis là-bas parce qu'il est ami avec la famille régnante.
Il est dans une immense villa que l'on voit d'ailleurs en photo. Vous écrivez un paradis luxueux qui a des allures de purgatoire.
Oui, parce qu'il quand même, il préférait être auprès des siens ou du moins de ses filles. Il aimerait être en Espagne. Mmh. Il a des longues journées, un peu ennuyeuses quand même, parce qu'il voit pas grand monde. Les amis lui ont tourné le dos. Il reçoit pas mal de visites de la famille de l'émir, des cousins, ouais. etc. Ce qu'on raconte Nicolas de la Salle dans le papier. Qui a enquêté et puis qui s'est appuyé sur le livre de Laurence Debré qui a fait une biographie du roi.
Exactement.
Mais c'est vrai que c'est pas des journées, c'est plus les journées d'avant. Hein. C'est assez calme.
Aurélie,
l'automne est trop chaud.
Il a 83 ans. Il est très isolé, vous l'avez dit. Son fils, le roi actuel Felipe, l'a répudié au nom de l'exemplarité de la couronne.
Il ne se parle plus. Ça, ce sont nos informations. D'après notre enquête, le roi n'a pas reçu de coup de fil pour son anniversaire cette année. Il se parle plus depuis plusieurs années, alors que le roi voit ses deux filles
qui lui ont rendu visite.
Mais Felipe VI veut. Il a choisi la couronne au détriment de son père, en fait. C'est pour lui, il n'y avait pas d'autre choix. S'il le faisait revenir dans le jeu, il perdait la légitimité de sa position.
En fait. Juan Carlos, il se tient au courant néanmoins de ce qui se passe encore, ce qui se joue encore dans son pays, en Espagne.
Oui, il lit la presse tous les jours.
Ouais.
La presse espagnole tous les jours, il passe des coups de fil à ses avocats tous les jours, il appelle tout un tas de gens qui peuvent le renseigner, il se tient au courant, il aimerait rentrer en Espagne, il aimerait finir sa vie en Espagne,
mourir
en Espagne, sur cette terre, lui qui était déjà un exilé de naissance puisqu'il est né en 38 à Rome, mais je ne sais pas si ce sera possible.
Quand on lit cette enquête, quand on regarde les photos, on se dit finalement quelle triste fin pour celui qui, il faut quand même le rappeler, a mené l'Espagne vers la démocratie. Hein. On est passé quand même d'un régime très dur.
Ah bon, on est passé de Franco, on pensait que ce serait la marionnette de Franco et qu'il continuerait un espèce de système quasiment dictatorial. Et lui, en 81, a choisi la démocratie, a arrêté le coup d'état militaire. Donc oui, il a fait une constitution. Donc c'était assez exceptionnel, ce roi, qui était plutôt fallo et qui, avec les années, s'est révélé être un homme moderne, démocrate. Mais Laurence Debré le défend dans son livre. Elle dit bien que on lui reproche de la corruption, des choses, mais il a tué personne, il a sauvé l'Espagne de l'enfer. Donc, est-ce vraiment si mérité
cet exil? Mon roi déchu, le livre de Laurence Debré qui sort chez Stock le 6 octobre, les confidences, l'enquête, les photos sont dans Paris Match de cette semaine. Merci Aurélie Raya, merci à vous.
Merci.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview de 7h moins le quart de ce samedi matin, c'était une journée, un week-end de commémoration, un an après la tempête Alex, un an après les crues meurtrières dans l'arrière-pays de Nice et de Menton. Bonjour Yvan Mottet.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le maire de Saint-Martin-Vésubie. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Hommage ce samedi après-midi dans votre commune, ce souvenir. Rendre hommage, en quoi c'est important pour vous, pour la population?
Cet hommage, oui, bien sûr, est très très important. Pour se souvenir qu'il y a un an disparaissait une dizaine de personnes sur notre commune, dont deux pompiers qui étaient en mission ce jour-là pour sauver des vies humaines et qui eux-mêmes ont perdu la leur.
Monsieur le maire, comment vous allez? Comment vont vos administrés un an après?
Bah écoutez, un maire, il n'a pas le droit de dire qu'il est fatigué. Il faut qu'il soit vraiment sur son bateau et qu'il tienne le cap. Aujourd'hui, ça va. On peut pas dire que ça va pas. Ce qui est très très difficile, c'est les heures qui s'enchaînent et qui sont très très longues. Mais ce qui est important, c'est que la population reprenne le moral, que tout aille bien et puis qu'on aille de l'avant. Voilà.
Il faut rappeler que chez vous, c'est 91 maisons, c'est ça, qui ont été détruites, des terrains qui ont été emportés.
91 maisons qui ont été détruites. Oui, 91 maisons emportées, 67. Qui risquent d'être détruites. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-unes qui seront sauvées, mais certainement peu. Il faut pas oublier quand même que Saint-Martin-Vésubie est le village le plus touché de toutes les vallées. Hein. Catastrophe, on a 150 maisons qui vont être détruites. Ouais. Par rapport à l'ensemble des maisons détruites dans toutes les vallées, y compris à Tende, c'est à Saint-Martin qui a eu le plus de dégâts.
Ça veut dire que votre village est encore aujourd'hui partiellement en ruine, on va dire?
Le village historique, si vous voulez, n'a pas bougé. Les anciens construisaient au bon endroit. Aujourd'hui, ce qui a disparu, c'est qui a été balayé. Je dirais que c'est le fond de la vallée, c'est les jolis terrains plats où il y a eu des chalets de construits et tout ça, c'est bien sûr, ça a été balayé. Les souvenirs ont été balayés, les maisons ont été balayées et les gens, bien sûr, ont encore la cicatrice de ce 2 octobre 2020.
Yvan Mottet, il y a beaucoup.
Mais vous savez, dans nos villages, il y a une énorme entraide entre les gens. Et ça, c'est resté, c'est puissant, et tout le monde s'est donné la main, et on est prêt à repartir, à reconstruire. Saint-Martin a été à genoux, mais il n'a pas été détruit.
Vous avez dû, bien sûr, pendant cette année, reloger vos habitants qui ont perdu leur maison.
La métropole s'est occupée d'eux quand on les a rapatriés sur Nice. Vous savez, ça a été un état de guerre. Hein, dans les premiers jours, les hélicoptères sans arrêt qui atterrissaient, qui emmenaient des gens, qui les ramenaient à Nice. Mais vous savez, les gens en majorité sont revenus à Saint-Martin. Et je disais que la bonne température pour Saint-Martin, c'est l'école. Il y avait 72 enfants avant la tempête, 63 juste après la tempête. Aujourd'hui, on en a 72. Et pour moi, c'est ça l'important. C'est de voir cette jeune génération qui est là au complet dans notre école.
Bien sûr. Monsieur le maire, il y a encore beaucoup d'impatience, beaucoup attendent encore d'être indemnisés.
Bien sûr, mais si vous voulez, que ça soit le maire, que ça soit les habitants, tout le monde est impatient de savoir où ils vont, ce qu'ils vont toucher, c'est normal. Mais je disais que le préfet Xavier Pelletier nous a démontré les études sont longues. Il fallait d'abord que les experts passent. Il faut aussi une évaluation des biens par les domaines. Il faut l'accord des propriétaires. Ensuite, on prend la part que les. Une fois que l'évaluation des domaines est faite, on prend la part qu'ont donné les assurances dans le remboursement. Et le fonds Barnier va venir en complément par rapport à l'évaluation qui a été faite par les domaines.
Ouais.
Donc tout ça, ça a été long, mais aujourd'hui on a commencé, les indemnisations vont suivre, il y a eu 10 maisons de fête, on en a 10 autres qui ont été faites ces jours-ci aussi, et petit à petit, les gens commencent à comprendre comment le système fonctionne, et on va arriver aux indemnisations très prochainement.
Monsieur le maire, vous en parliez tout à l'heure de solidarité. Très vite, je voudrais qu'on évoque cette brasserie, notamment brasserie locale, qui a été sauvée grâce finalement à ses concurrents.
Oui, la brasserie du comté. Les concurrents les ont accueillis pour qu'ils puissent continuer à fabriquer leur bière et ne pas et que
ne pas tout perdre
leur service commercial.
Bien sûr.
Voilà.
C'est ça aussi
mais
l'exemple.
Actuellement, là, on a redonné un terrain aux brasseries du comté.
Ouais.
Ils ont commencé des travaux et très très prochainement, ils seront opérationnels ici à Saint-Martin.
Juste pour terminer, Monsieur le Maire, un souvenir très fort que vous gardez en mémoire de ce 2 octobre. Qu'est-ce qui reste dans votre tête?
Eh bien, écoutez, ça a été le fait d'être présent, de rester calme, de être serein. Et donner confiance aux gens qui avaient peur, leur dire regardez moi je n'ai pas peur. Bon ben il y a la perte les pertes humaines. Pour moi ça a été la principale peine. 10 personnes décédées, on aurait voulu ne pas en avoir. On aurait voulu que nos jeunes pompiers qui étaient partis en service pour aider les autres ne meurent pas, parce qu'on n'enlève pas des vies à 30 ans ou 35 ans quoi. C'est triste.
Bien sûr.
Surtout pour aider les autres.
Merci, merci à vous, Yvan Mottet, le maire de Saint-Martin-Vésubie, ce matin sur Europe 1. Grand merci.
Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, dans 6 minutes, vous avez rendez-vous avec Isabelle Moreau. D'ici là, un peu de musique. Clara Luciani sur Europe 1.